portrait de femmes œuvrant pour la transition écologique et sociale dans les territoires bretons. Une série de portraits réalisés par l'association Éco-Breton avec le soutien de la région Bretagne. Aujourd'hui, rencontre avec Solène de Mars de l'effet papillon à Beau.
Je m'appelle Solène de Mars. Donc en fait, je me suis rendu compte que si on voulait pouvoir changer le monde, en fait, il fallait l'attaquer par le pognon. Et donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie sociale et solidaire. Donc je suis aujourd'hui secrétaire du pôle ESS Centre-Bretagne et j'ai monté une structure avec une copine Virginie qui s'appelle l'effet papillon à Beau. Donc là, je travaille sur un autre projet pour 2020 qui est une pépinière d'activités agriculturelles à Beau aussi.
Mais est-ce que tu peux nous présenter l'effet papillon ?
Alors l'effet papillon, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc il y a une petite particularité, c'est que c'est aussi une recyclerie et qui est autonome financièrement. Donc du coup, l'idée de la recyclerie, c'était de financer un espace collectif, associatif évidemment. Et donc on a 300 mètres carrés d'espace de travail partagé. On a un salon de thé, on a mis à disposition des ordinateurs, on a un espace d'info, un espace pour les enfants. Et puis on essaye de faire de l'accompagnement au développement de projets personnels, professionnels ou collectifs.
Et ce projet, il s'est monté comment ? Enfin, c'était quelle envie, en fait, était à la base du projet ?
Bah, avoir un lieu à partager, en fait, qui ne soit pas la salle associative tenue par la mairie, qui ne soit pas la bibliothèque, qui soit vraiment un lieu associatif où on puisse vraiment être qui on est. Il y avait un axe qui nous paraissait important, c'est le fait de pouvoir être justement qui on est vraiment. Et donc un lieu qui accepte tout le monde. Donc c'était un peu ça l'idée. On a pensé à un bistrot évidemment à un moment donné. Mais on n'avait pas forcément envie de gérer la partie fête. Parce qu'en fait les gens, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils font de toute façon la fête ensemble s'ils ont des atomes crochus. C'est pas l'essentiel pour nous, c'était le fait qu'ils puissent travailler, réfléchir ensemble à des solutions pour eux et pour les autres.
Dans ton parcours, en fait, qu'est-ce qui t'a mené à créer ce lieu ? Il y a peut-être des valeurs que tu voulais mettre en avant. Enfin, ton engagement, en fait, ça vient d'où ?
Alors déjà, je suis née anarchiste par mes parents, les deux. Alors c'est plus, c'est comme naître bourgeois, c'est pas hyper évident. Ensuite, je viens d'une famille pauvre, donc il a toujours fallu qu'on se débrouille pour obtenir ce qu'on voulait. Donc je trouve que d'ailleurs la pauvreté était hyper créative, nous rend hyper créatifs. Donc voilà, il y avait ces deux trucs-là au départ. Après, le fait de croiser plein de gens qui ont plus de sens dans leur vie, ça me perturbe beaucoup. Donc à un moment donné de ma vie, ça me rendait malade. Et puis à un moment donné, je me suis dit, on va peut-être trouver des solutions. Parce que je suis plutôt d'un naturel optimiste et idéaliste. Mais pas bisounours.
Et en dehors de l'effet papillon, tu as d'autres activités aussi ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce qu'il y a notamment un projet de GFA. Il y a la pépinière aussi, voilà, tous ces projets-là. Tu es aussi membre du pôle ESS. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Parce que c'est beaucoup d'activités, en fait.
Comme j'étais créative et optimiste et anarchiste, du coup, je ne voulais pas faire travailler comme les autres. Donc, très vite, j'ai travaillé plutôt pour moi. Donc, au départ, j'étais costumière de théâtre. J'ai, du coup, travaillé un peu dans l'événementiel. Je me suis mariée avec un musicien. Je suis devenue un peu manageuse. J'ai organisé des concerts sur Rennes, sur Quimperlé, sur Douarnenez, un peu partout en Bretagne, sur l'Orient. Et puis, je m'occupais déjà beaucoup des autres à l'époque. J'avais l'impression, en étant manageuse, tu fais en sorte que tes musiciens soient bien, tout ça. Donc il y avait ce truc-là. Et puis donc il y avait cette part de créativité. Après, j'avais beaucoup de mal à me vendre. Donc du coup, j'ai essayé différents métiers. J'ai bossé dans le bâtiment. J'étais très bricoleuse, donc pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été céramiste aussi à un moment donné. Je me suis retrouvée à habiter à Rochefort-en-Terre. Et puis, j'avais une copine qui était déprimée et qui faisait de la terre. Je lui ai dit, mais enfin, tu peux pas te laisser aller comme ça, il faut qu'on trouve une solution. Et puis, j'avais une autre copine qui faisait des bijoux, qui gagnait très, très bien sa vie. Je lui ai dit, on devrait faire des bijoux en terre. Et puis, donc, on a monté une bijouterie de terre cuite à Rochefort en terre. Et puis ça suffisait pas parce qu'il y avait un local qui était vide à côté, donc du coup j'ai monté une boutique de bonbons. Mais tout ça, c'était très épisodique, quoi. 6 mois, 1 an, hop, j'ai essayé plein de trucs, quoi. Il y a 9 ans, j'ai commencé la bijouterie. Vraiment, j'ai été formée par un maître colombien. Et donc là, j'ai eu quand même, j'ai appris une technique quand même particulière. Et c'est vrai que depuis, bah, je gagne mieux ma vie. Enfin, je peux être indépendante financièrement. Voilà, donc du coup, j'avais plus de temps pour monter des vrais trucs. Donc j'ai commencé à monter une asso sur Beau à Délices les Biscottes, qui était l'idée, c'était de créer des prétextes pour que les gens se rencontrent. Donc on a travaillé sur les incroyables comestibles, on a fait des concerts à domicile, voilà. Et puis il y avait cette dimension en fait économique qui suffisait pas. Donc de fil en aiguille, on en est arrivé à l'effet papillon. En parallèle, j'avais aussi envie de m'impliquer politiquement. Donc on a organisé avec ma copine Virginie le Salon des Alternatives il y a 4 ans. On a rencontré plein de gens du réseau, enfin des bouts de réseau. Et puis là, on s'est dit, là, il y a vraiment un truc à faire sur le réseau, c'est vachement important, donc il faut peut-être un lieu central. Et puis, il faut s'impliquer partout où on peut s'impliquer, quoi. Donc, évidemment, les problématiques environnementales, les OGM, la condition paysanne, la professionnalisation de la politique, des politiciens, en tout cas, c'est plein de sujets dans lesquels il y a de la matière à bouger, quoi. Donc voilà, je suis devenue porte-parole l'année dernière de la marche contre Monsanto. Et là, j'ai flippé, j'ai angoissé en fait. Parce qu'en fait, tous les dossiers qu'on ouvre sont pires que ce qu'on imagine. Donc là, je me suis dit que, bon, j'ai fait pendant 6 mois, mais je me suis dit que c'était pas la bonne façon que de manifester, que d'aller jeter des tomates et que j'avais finalement bien raison de tout le temps essayer de trouver des solutions. Donc pour la paysannerie, effectivement, donc j'ai participé à la création d'un GFA. Donc on a acheté 10 hectares de terre pour un paysan boulanger et il nous reste quelques hectares disponibles pour un maraîcher. Et puis Pôle USS, donc du coup ça c'était les premières réunions de Pôle USS, je comprenais rien à ce qu'ils disaient, donc je leur ai demandé de me faire une traduction à la fin de la première réunion. Et puis j'ai adoré en fait cet axe-là, quoi. Donc du coup je suis rentrée au CA et du coup je suis devenue secrétaire. Mais bon, avant d'être secrétaire, j'étais quand même très très investie. Donc là, dans les grandes nouveautés cette année, c'est qu'on a monté une émission de radio qui s'appelle Caisse sur RBG. Donc on a fait par exemple pendant le mois de l'ESS 3 émissions par semaine pendant un mois. Après, on a testé. Donc là, on est en train de voir quelle formule on prend. Donc, une fois par semaine, 15 minutes. On imagine là une émission enregistrée en public avec débat, etc. Et l'idée, en fait, c'est de valoriser les acteurs du territoire et de donner envie à ceux qui font pas encore grand-chose de s'y mettre. Que rien n'est insurmontable. Il faut juste y aller, quoi.
Il y a le projet de pépinière aussi.
Oui, oui, parce qu'en fait, à l'effet papillon, on est un petit peu contraint à notre image, parce qu'en fait, on est dans un lieu public, il y a toutes sortes de personnes qui viennent ici. Donc, du coup, on est plutôt sur un axe de sensibilisation, montrer aux gens qu'on peut faire autrement, peut-être, petit à petit, voilà, réfléchir ensemble et tout ça. Et puis, là, l'idée, c'était de créer sur la pépinière quelque chose qui soit plus axé vers la transition réelle. Donc travailler sur le low-tech, donc toujours sur le même concept, c'est de mettre à disposition des espaces de travail et des outils pour des gens qui voudraient monter des projets. Mais ça pourrait être par exemple une épicerie vrac, une maison des semences paysannes. Donc il y a en projet l'atelier bois et l'atelier métal. On va mettre une forge, on veut faire de la transformation alimentaire, on veut faire des ruches. Peut-être un espace aussi de stage, en fait, de l'accueil de stage en milieu naturel, avec, comment ça s'appelle, un camp de survie dans une zone humide. Donc toujours des choses très sérieuses et des choses qui ne le sont pas du tout, comme des nuits de la soudure, comme, voilà, on aimerait bien pouvoir faire une fête foraine. Enfin, bon. Mais là, en fait, sur ce projet-là, il n'y a pas de temporalité. On achète, plusieurs personnes investissent sur le projet. On n'investit pas dans des travaux particulièrement chers. On va tout remonter en terre paille, a priori, juste comme ça. Donc, on essaye aussi, dans notre approche générale des projets économiques, d'enlever la partie argent le plus possible, de la réduire au minimum, quoi. Pas d'emprunt, on fait avec ce qu'on a, on imagine. Et donc, du coup, sur le projet low-tech, l'idée, c'est de travailler, en fait, à se fabriquer des outils qui permettent d'avoir une vie un peu confortable, mais pas au détriment de notre environnement, quoi.
Tu parlais de la transition écologique. Enfin, c'est ouais. Quelque chose qui anime tous les projets dans lesquels tu t'investis. Comment est-ce que tu définis justement cette transition écologique, enfin, ou sociale en fait, hein, la transition tout simplement?
Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien que je suis à Morbihan en transition aussi. Hein. C'est que pour moi, la transition, elle est nécessaire. On vit dans une société qui est arrivée à sa fin, c'est une évidence. Alors, moi, je m'inscris pas dans des délires collapsologues et tout ça parce qu'en fait, on sait pas tout. C'est comme l'effet papillon, quoi. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ne connaît pas les conséquences de demain. Si on devait tout effacer le tableau aujourd'hui de notre histoire, on referait exactement les mêmes erreurs. Donc l'idée, c'est pas de gommer, c'est pas de repartir à zéro, mais c'est de partir de nos connaissances actuelles pour transformer les choses et puis être sobre, quoi. Un petit peu. Enfin, on est entouré d'un tas de choses dont on n'a pas besoin. Revenons à l'essentiel, revenons proches les uns des autres, respectueux de notre environnement, pas énergivores. Enfin, voilà. Puis pensons à se faire du bien, quoi. C'est pas mal, quoi. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a des tas de choses dont on peut se passer. Moi, j'ai vécu pendant 8 ans dans la forêt sans eau, sans électricité, enfin sans raccordement à l'eau et à l'électricité. Et je m'étais dit, j'aurai l'électricité le jour où je serai capable de la produire. Parce qu'il y a un moment donné, on a toutes les connaissances pour ça, quoi. Et donc j'avais une source, une rivière qui passait à côté. Bah, j'ai utilisé l'histoire des vases communicants pour ramener l'eau dans ma cabane, quoi. Et puis finalement, j'avais un confort pas possible. Tout le monde me disait, mais t'as froid et tout ça. Ben non, j'ai un poêle à bois. Bah, y a des solutions pour tout.
Et puis c'est des solutions aussi qu'on a perdu. Enfin, tous ces savoir-faire-là, on les a plus, en fait.
Bah ouais, on est barré à super technologie, imprimante 3D, tout ça. Mais ça nous sert à quoi d'imprimer des petits bouts de plastique avec du plastique neuf? Enfin, il y a un moment donné, il faut être cohérent aussi. Et du coup, bah, en fait, on a tous un rôle vachement important à jouer parce qu'on voit bien sur la consommation, les gens au supermarché, ils hésitent maintenant quand ils achètent des trucs qui ne font plus des caddies pleins. Ils se posent des questions, ils regardent la provenance, ils regardent la composition. Ils n'ont plus confiance, donc ils cherchent des solutions. Peut-être que c'est le moment à nous aussi de monter justement des projets qui leur donnent des solutions. Comme, je ne sais pas, une épicerie vrac, par exemple. Voilà, si on en avait dans tous les villages, ben, les gens auraient le choix. Mais il faut aussi qu'on développe la paysannerie, parce que là, on n'a pas assez de paysans. Donc, si on voulait tous manger bio, ben, on ne mangerait pas, quoi.
Et ben, nous, on fait cette série de portraits, justement, avec les femmes, parce qu'on constate que beaucoup de femmes sont investies dans énormément de projets en Bretagne. Quel est ton constat par rapport à ça, toi ? Est-ce que tu sens qu'il y a une prédominance féminine dans les actions de transition?
Bah oui, et justement, c'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu délicate. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, les hommes ont dirigé le monde et on s'est laissé faire. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse comme eux. Et donc, du coup, il faut réussir à les intégrer. Mais je pense qu'ils n'ont pas atteint la maturité nécessaire. C'est comme s'ils se faisaient déposséder de leur pouvoir, en fait. Et du coup, bah, il faut réussir à les embarquer avec nous. C'est pas évident, hein, mais parce que nous, on a un côté, bah, en fait, on est potentiellement toute maman. Et donc, du coup, bah, on a cette notion-là vitale, en fait, qui nous oblige à trouver des solutions aujourd'hui parce qu'on veut pas laisser un monde de merde à nos gamins. Donc, faut qu'on fasse attention, mec.
Il faudrait peut-être aussi plus de sororité, parce que c'est pas encore forcément le cas, en fait, aujourd'hui.
Honnêtement, en ce qui me concerne, je suis pratiquement pas entourée de mecs. On est ici 7 salariés, il y a 7 salariés femmes. On a un garçon dans notre équipe, donc on l'appelle Charlie, évidemment. Ils ont beaucoup de mal à voir la vision globale, en fait, que nous, on a, qu'on essaye d'avoir, et qu'on essaye de construire, d'ailleurs, ensemble. Parce que bah voilà, je pense que c'est vraiment cette histoire de maturité. Ils n'ont pas tous encore atteint ce niveau-là.
Et est-ce que justement être une femme, ça a été un levier à certains moments ou un frein?
Ouais, j'ai surtout eu des difficultés dans le bâtiment. Ah bah ouais, là, t'es une nana, ils veulent toujours que tu sois payée 2 fois moins que les autres, même si t'es très efficace. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai arrêté le bâtiment, parce que ça m'a saoulé, le machisme, etc., etc. Mais pour le reste de ma vie, non, non, j'ai toujours été assez fière d'être une femme. Je pense qu'on a des atouts que les hommes n'ont pas, et du coup, faut savoir s'en servir. En plus, il paraît qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Je crois que c'est vrai. Et du coup, bah, rien que pour ça, je suis bien contente d'être une femme.
Et justement, les atouts.
Je pense pas qu'il y ait des atouts particulièrement féminins ou particulièrement masculins. Là-dessus, je peux pas dire. Parce que on prend l'enfantement, par exemple. Alors, ça peut être un atout à certains moments de sa vie, mais à d'autres, ça peut être un calvaire. Donc, du coup, je pense que c'est bonne chance à tous, quoi. On a un jeu, on est avec un jeu de cartes. Voilà, il faut bien choisir celle qu'on veut garder pour affronter la vie, quoi.
Est-ce que tu as d'autres projets que ceux dont on a parlé pour les mois à venir, les années à venir?
Ouais. Être heureuse. Non, je pense que si j'arrive à équilibrer, du coup, dans ma vie perso, tout ça, sans péter les plombs, sans faire de burn-out, bah, ça va être déjà vachement bien. Ouais. Bah oui, un peu de créativité, un peu de structuration, un peu pour les autres, un peu pour soi. Parce que c'est ça, en fait, la problématique des militants, c'est qu'ils s'oublient souvent. Donc voilà, il faut rester vigilant et efficace, bien organisé.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'enthousiasment ou enfin des choses que tu trouves vraiment chouettes ou et des choses qui au contraire te dépriment, te désolent, te révoltent?
Alors, des choses qui m'emballent. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, je m'étais dit, bon, c'était pas si longtemps, je crois que c'était l'année dernière, j'aimerais bien être surprise. J'avais l'impression que tout était posé et que, voilà, j'étais jamais soufflée. Et puis finalement, en fait, l'élan que je vois autour de moi, parce que bah, il se passe des trucs partout, on ne peut pas faire 10 km sans qu'il y ait une très très belle initiative, qu'il y ait des très beaux projets qui naissent partout. Tous les jours, on rencontre des gens extraordinaires qui font des choses nécessaires. Et donc tout ça, je trouve ça passionnant. Et d'aller à la recherche de ces viviers, de ces expériences, et de pouvoir les transporter partout et dire, ah, vous savez, il y a ça là, ah, mais tu connais pas, à côté de chez toi, il y a ça, et de pouvoir mettre les choses en lien, ou de les voir se mettre en lien, je trouve ça absolument délicieux, et je prends vraiment du plaisir à ça. Des trucs qui me désolent, bah, du coup, c'est tout le reste, quoi. C'est tout le reste. Ouais, je peux pas regarder les infos, je lis pas les journaux, parce que c'est trop dur. Je préfère voir ce qui marche et puis garder l'espoir qu'on va réussir à faire basculer tout ça, quoi.
On parlait des choses qui t'emballent. Est-ce que dans le secteur ici, il y a une initiative qui, enfin, sur laquelle tu voudrais
Fasse un
qu'on,
focus.
voilà, qu'on fasse un focus, qu'on mette en lumière?
Bah, il y en a plein. Alors, j'imagine que c'est déjà dans votre liste le travail que fait Trémargat, sans idolâtrer, hein, Trémargat, on sait très bien que dans tous les collectifs, il y a aussi des difficultés. Mais ils ont quand même une sacrée longueur d'avance sur plein de points. Donc, effectivement, pour moi, c'est quand même un modèle Trémargat de réussite. Après, d'autres modèles de... Là, c'est plutôt du coup dans la technique, c'est le travail de Langouette. Je trouve assez intéressant en fait le processus qui est utilisé à Langouette pour faire changer les choses. En toute discrétion au départ, alors là, on est en ce moment sur une phase d'actualité, coup de com' et avec l'arrêté pesticides, mais le maire de Langouette et son équipe, ils ont une vision à un moment donné et ils se sont dit en fait que ça servait à rien d'en faire des caisses au départ. Ils ont amené les choses petit à petit, comme par exemple les poules en liberté dans le village pour que les voitures roulent moins vite. Et je me rappelle il y a quelques mois, le maire m'en avait parlé en me disant que c'était un de ses petits rêves. Il avait vraiment hâte de faire ça et le jour où il le ferait, ce serait vraiment super. Et il a un autre rêve, c'est de fermer la route le dimanche pour que les enfants puissent courir dans la rue principale. Et donc ça, je trouve ça absolument génial. Mais après, plein d'endroits que je connais qui sont super, je pourrais en faire des listes et des listes. Mais je trouve que dans mes deux modèles, on va dire, c'est ces deux-là, quoi.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce qu'on arrive à la fin de l'entretien.
Eh ben, ne désespérons pas. Courage à tous. Joie et détermination.
Merci pour ce mot positif.